Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime.
Hello user.
Et je suis aussi avec Exer.
Je voulais dire la même chose.
Ah bah oui, mais là, c'est ça, voilà, désolé, c'est comme ça. Oui, on doit respecter l'ordre, je suis désolé, je ne peux pas changer.
Bonjour, voilà, et salut à tous.
Alors messieurs, on se retrouve pour ce dernier mois complet de Fin du Game, deux épisodes ce mois-ci, ce mois de juin, et pour après prendre un rythme un petit peu plus léger pour l'été, pour que nous aussi, nous puissions passer du temps avec nos familles respectives, voilà, au soleil, prendre un petit peu de vitamine D, bref, profiter de la vie tout simplement. Donc en juillet et en août, il y aura un seul épisode, alors on ne sait pas trop quand ça sortira, à peu près mi-juillet, mi-août.
Voilà, ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal.
Avant de reprendre avec la saison 4 qui intégrera la blacklist, puisque, eh bien, vous le savez, vous nous avez permis d'atteindre ce palier. Donc voilà, merci énormément. Je vais pas en faire trop aujourd'hui. Voilà, j'ai juste envie de vous remercier parce que voilà, ça me rend heureux et mon portable s'éteint, je n'ai plus mon conducteur. Mais voilà, merci beaucoup. On remercie également Third Edition, la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo.
Mais pas que,
sœur d'édition qui nous sponsorise, hein. Et Mehdi, qu'est-ce qu'il m'a dit de dire ce matin? Il m'a dit, Hugo, ce matin, tu peux dire qu'il y a le livre sur The Last of Us qui va sortir, donc sur le 1 et le 2, qui sera écrit par Nicolas Dénéchaud. C'est ça, c'est bien, je prononce bien, qui avait déjà écrit celui sur la série Uncharted, donc un spécialiste de Naughty Dog, et puis Monkey Island.
Exactement.
Spécialiste de Naughty Dog. Voilà.
Naughty Dog.
Monkey Island, Naughty Dog, voilà. Bienvenue dans cette émission de professionnels.
Professionnels, exactement.
Et il sort ce mois-ci, du coup il sort...
Oui, apparemment, ça arrive.
Surprise, sortie surprise. J'ai vu également un bouquin sur Doctor Who.
J'ai vu ça passer hier. Voilà. Un avis sur Doctor Who ici, est-ce qu'on aime Doctor Who ou est-ce qu'on a déjà regardé Doctor Who?
J'ai dû voir un épisode, j'ai pas accroché plus que ça. Je respecte la mythologie.
Tu n'es pas un vrai geek, bah, ça c'est vraiment... C'est le critère de différenciation. toi Benoît?
Ah bah non, mais m'interrogez pas sur des trucs comme ça.
Pourquoi?
Moi j'aime pas du tout.
Ah merde, bon, on est désolé.
Moi je sais pas, tu sais, pendant un moment le temps était suspendu, j'ai dit soit il est ultra fan, il a tout vu.
Exactement, pareil, je me suis dit ça, voilà.
Est-ce que c'est ça, pendant deux secondes, c'était l'excerpt de Schrödinger, tu vois. À la fois j'étais fan et pas fan.
Parce que parfois ça dure certains, oui j'ai tout vu, oui.
Exactement, c'est ça. Très bien, et ben voilà, vous avez donc toutes les news. On va pouvoir enchaîner sur le jeu de cette émission.
Le non-jeu.
Oui, There is no game. On va commencer avec une petite musique, une des deux chansons du jeu, chanson originale, écrite, composée, interprétée par l'équipe du jeu. Cette fois, c'est la chanson de Gigi, c'est comme ça qu'elle s'appelle ?
Tout à fait.
Qui est un renvoi, évidemment, Maxime, à...
James Bond, tu vois.
Oui, tout à fait, effectivement.
Un petit hommage.
L'inspiration, c'était Skyfall, hein. Adèle, vous connaissez. Est-ce qu'on pourra la mettre aussi en petite surprise comme ça en musique? Non.
Je crois que ça va, la SACEM, t'as pas encore trop fort sur un podcast.
Mais bon, on peut se faire plaisir.
Dans 5 ans, on sera peut-être strikés.
D'accord, on verra ça. Et on se retrouve juste après pour un nouveau Fin du Game.
Trace sorrow for GG minus you.
Alors, There Is No Game, c'est sorti le 6 août 2020 sur PC, c'est arrivé aussi sur mobile, et oui. D'ailleurs, le prix est différent, hein. C'est pas du tout le même prix sur la version.
Cher,
ouais, c'est beaucoup moins cher, je crois que c'est genre 6 euros ou un truc comme ça, alors que c'est 12 euros, 13 euros, je crois, sur Steam.
Et donc, voilà. Les jeux premium, de toute façon, hein, sur téléphone, forcément, c'est
comme quoi, c'est
moins évident.
Ça change le marché.
D'ailleurs, on peut prendre juste 10 secondes pour en parler, mais c'est vrai que c'est intéressant de préciser que le pricing, il se fait pas forcément en fonction de la valeur, entre guillemets, du jeu, mais de la valeur perçue des gens. Et sur mobile, bah, les gens pensent qu'un jeu coûte beaucoup moins cher, alors que tout de suite sur PC, le grand PC, là on fait ses grosses courses, on joue ses gros jeux, et bah là oui, tu peux claquer 10, 15, 20 balles sans souci. Ouais.
Et on note évidemment
assez peu en vrai. Oui, c'est-à-dire que la plupart des jeux indés, il y a tout un tas d'articles, si vous intéressez à ce sujet-là, qui disent que justement ils sont underpricés. Tu vois, moi aussi je peux parler en marketing.
Bienvenue dans la masterclass, c'est la masterclass marketing.
Avec... Justement, il y a pas mal de jeux qui étant assez peu chers par rapport à leur valeur ou leur contenu, notamment il y avait Hades qui avait pas mal fait parler de lui parce que le jeu était pas assez cher pour pas mal de devs en disant mais il y a tellement de contenu, c'est tellement riche, c'est peut-être pas assez cher. Enfin bref, voilà.
En fait,
ça établit
un standard auquel les gens vont s'habituer. Et toi, tu te dis, putain, ça veut dire qu'il faut qu'on se mette encore en dessous de ce prix-là si on n'a pas le même contenu. Donc,
rappelez-vous. C'est pour ça que Nintendo, par exemple, ne baisse jamais les prix de ses jeux parce qu'ils considèrent que ça évite de dévaluer justement leurs jeux. Et donc, même dans 10 ans, vous continuerez à payer vos Zelda 40 ou 50 balles.
Mais je crois qu'on avait dit ça pour Hollow Knight où c'était quoi ? C'était même pas 20 balles, je crois.
Ouais,
et on disait, mais ils font limite du mal en fait à l'industrie de proposer autant de contenu pour aussi peu d'argent. Et Hades, pour info, qui était un peu plus cher sur Switch, parce qu'il y a d'autres jeux aussi qui coûtent quelques euros de plus sur Switch.
Exactement, Maxime, tu fais très bien de le noter. Et par contre, là, There Is No Game, je crois que c'est le même prix sur Switch et sur PC.
Il vient d'arriver d'ailleurs sur Switch, c'est assez récent.
Oui, et je l'ai fait d'ailleurs dessus, et je ne vous le recommande pas particulièrement, puisque le gameplay se joue quand même beaucoup à la souris. C'est quand même été construit pour les souris. Donc c'est... Il y a quelques passages qui sont pas évidents parce que pointer, faire du drag and drop avec un stick, c'est pas hyper pratique.
Hello, user. Alors, je suis désolé, ici c'est Maxime du futur, enfin du passé pour vous, mais du futur de l'enregistrement. Là, je suis en train de faire le montage. Et c'était pour faire un petit erratum pour dire qu'en fait, sur Switch, c'est complètement jouable en tactile, en tout cas d'après nos sources. Et que donc, si vous y jouez en mode portable, vous pouvez y jouer en mode tactile sans souci. Ce que disait Hugo, ça concernait vraiment le joystick, ce avec quoi il a joué. Et bon, a priori, selon lui, c'est pas optimal. Du coup, on voulait pas dissuader des gens de le prendre sur Switch s'ils pensaient y jouer en portable et tactile, puisque, comme dit, visiblement, il n'y a pas de souci. Voilà, c'était la minute fact-checking de votre serviteur. Je vous souhaite un bon épisode.
Donc on a fait une belle parenthèse pour attaquer là-dessus. C'est un jeu qui est développé par Draw Me a Pixel, ça c'est le nom du studio, probablement une référence au Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry, puisqu'il était lui aussi lyonnais.
Là, vous voyez pas,
et
mais il me pointe la main. Dès que c'est des références de vieux, il cherche la question.
Non, pas du tout. Tout le monde a lu Le Petit Prince. Relisez Le Petit Prince.
Je l'ai pas lu, mais j'avais joué à un jeu Le Petit Prince.
Ah, y a un jeu
où t'allais te commettre en comète, un peu narratif.
Tu défonçais les ennemis pour sauver ta rose.
Ça s'appelait Mario Galaxy.
Le renard, tu lui tires dedans.
Très bien. C'est très sérieux. Vraiment, bravo pour cette émission.
C'est bientôt là. Vous savez, c'est comme à l'école. Oui, tu sais, les dernières semaines. Avant,
ouais,
avant
on regarde des films. Ouais, tu vois,
on amène les jeux de société. Voilà, c'est un peu pareil, la même ambiance ici.
C'est aussi le premier jeu de Pascal Camisotto, qui est aussi français, qui vit à Lyon. Mais c'est pas du tout son première incursion dans l'industrie, puisque contrairement à beaucoup de développeurs comme ça, Indé, dont c'est le premier jeu, c'est pas vraiment pas du tout son premier projet, puisque lui, il est dans l'industrie depuis les années 90. Il est rentré dedans, c'était en 95, c'est ça qu'on a noté. Il avait une petite vingtaine d'années.
Oui, c'est ça.
Je crois qu'il avait 19 ans. Voilà.
J'ai vérifié, voilà, exactement. Sur compte Twitter, il avait partagé l'image d'un jeu qui était édité par Infogrames, dont j'ai complètement oublié le nom, de ces obscurs jeux des années 90, et c'était son premier projet en tant que jeune dev.
Ouais, en tant que. Je crois que c'est sound designer plutôt dans le son, peut-être de composition, et après, il y a eu une petite parenthèse, voilà, école, je crois, cinéma.
Ouais, il a fait des études de cinéma.
Il a réintégré l'industrie.
Pendant une dizaine d'années, il a donc bossé pour des studios lyonnais, donc 2000 jusqu'à 2009. Les studios, on avait noté, c'était. Doki Denki et un autre studio qui s'appelle Phoenix Studio. Voilà des noms, j'imagine, qui vous rappellent énormément de souvenirs, qui ont marqué le paysage vidéoludique avec des licences telles que Winnie l'ourson, Tigrou, Porcinet et Arthur et les Minimoys. Donc voilà, il a bossé sur un petit peu des jeux, des adaptations à une époque où les adaptations c'était peut-être pas ce qu'il y avait.
Juste pour la parenthèse, si jamais les gens savent pas, Lyon historiquement c'est quand même un peu la ville du jeu vidéo en France, puisqu'il y avait Atari qui était là-bas, il y a eu Electronic Arts, il y a vraiment beaucoup en fait de studios. Bandai est toujours là-bas. C'est vraiment le berceau historique du jeu vidéo en France, c'est plutôt à Lyon, et c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de studios là-bas, même si aujourd'hui évidemment il y a tout un tas de villes, Lille, Paris qui le devient.
Ubisoft, non, mais
même vu qu'Ubisoft ils sont dans toutes les villes, c'est comme les McDo. on a des studios Ubi partout, donc
D'ailleurs tu le vois dans l'évolution, parce qu'au début leur jeu était édité par Infogrames qui est disparu, enfin qui a fermé, je sais plus exactement, mais qui n'existe plus, et là les jeux Arthur les Minimoys et tout, je crois que c'est édité par Ubisoft. Donc tu vois, de toute façon, Tu sens que c'était un taf assez pas alimentaire, mais c'est des jeux qui sont pas non plus hyper hyper connus par les gens.
Oui, on oublie, tu vois, toute la série là des Léa Passion et tout, c'est des jeux Ubi aussi. Donc il y a eu effectivement tout un il y a eu pendant pas mal d'années des jeux vraiment de commande, de licence, c'était la grande époque où les jeux à licence, c'était plus des produits dérivés que des trucs très sérieux, mais ça n'a pas empêché pas mal de gens comme
ça
Pascal
vivre plein de petits studios
Vivier, comme ça,
faut pas oublier que ça c'est une grosse partie du jeu vidéo ce genre de jeu.
Tout à fait donc pendant une dizaine d'années il bosse dans des studios comme ça, et puis en 2009 il va aller fonder un studio indépendant à Nîmes. On rappelle que 2009 c'est le début de la première vague du jeu indépendant, vous connaissez. Si vous
Bright, c'est quoi, 2007 ou 2008, je sais jamais.
C'est par là.
C'est 8, je crois que c'est 2008, ça, Bright. Donc voilà. Donc
sachant qu'avant, il y avait déjà quelques petits trucs, tu sais, il y avait World of Goo, il y a eu quelques petites incursions comme ça. Physical Draw, là, je sais plus comment il s'appelait, là, l'espèce de petit jeu où tu dessinais justement. Enfin bref.
Ouais, ça me dit rien.
Cave Story.
Effectivement, ouais, Cave Story, c'est vraiment le premier. Mais en tout cas, c'est cette période où on commence à sentir un peu cette ébullition. Mmh. Et du coup, Pascal, avec d'autres personnes, ils vont aller fonder ce studio pour essayer de rentrer un peu dans ce délire-là. Ils vont sortir un Tower Defense en 2012 et ce ne sera pas du tout un succès. On en parlait là juste avant la préparation. C'est vrai que les Tower Defense. Alors, on sait pas. On n'a pas trouvé énormément d'infos sur ce jeu. J'ai l'impression que c'est quelque chose peut-être qu'il a un peu plus voulu oublier entre guillemets. C'est vrai que les Tower Defense c'était un genre qui était aussi beaucoup présent sur navigateur, c'est-à-dire des jeux gratuits. On pense à Kingdom Rush, sait l'amour.
Bien sûr.
Desktop Tower Defense aussi, moi j'ai joué souvent.
Il y en avait plein. Il y avait Bloomstead, enfin vraiment. Je suis un grand fan de Tower Defense. Et on le rappelle évidemment, ça c'est pour la caution Maxime. Ça vient évidemment de StarCraft. Puisque c'était des mods au départ, cette mode justement des Tower Defense. Il y a eu Plantes versus Zombies aussi. Enfin, il y a eu vraiment
à cette époque-là, c'est vrai que des jeux très très grand public qui étaient soit gratuits, soit pas chers, qui sortaient sur
la grande époque
sur tablette,
de Flash, Facebook, iPad, vraiment la première génération d'iPad. Enfin, il y a eu tout un panel de jeux comme ça qui sont sortis à cette époque.
Alors, est-ce que justement c'était un jeu premium, c'est-à-dire vraiment payant, qui est sorti sur Steam et qui a justement peut-être pas trouvé sa place au milieu de cette vague de jeux indépendants? On n'a pas trop d'infos là-dessus. Mmh. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, Pascal, il en garde pas forcément un excellent souvenir. C'était difficile commercialement, mais aussi même humainement. Ça s'est apparemment pas très très bien passé pendant cette aventure avec ce studio-là. Le studio ne va d'ailleurs pas y survivre, va quitter le studio. Et il va se lancer tout seul. Et je crois qu'il va se former un petit peu, il va apprendre à utiliser d'autres outils.
Rebonjour, user, c'est Maxime du futur, du passé, vous connaissez. On va refaire 30 secondes de fact-checking pour dire que Pascal Camisotto est bien entré dans l'industrie en tant que compositeur, que le Tower Defense s'appelait Shadow, et qu'après, Pascal bossait en solo sur un jeu qui s'appelait Coin Up Story. Voilà, je suis désolé d'interrompre une nouvelle fois l'épisode, mais on voulait apporter ces quelques précisions pour corriger un petit peu quand même ce qui avait été dit. Puis je vous le cache pas, c'est un peu rigolo de faire ces interventions. Je vous laisse vraiment cette fois-ci pour que vous découvriez la suite de cette aventure formidable.
Et puis, flash forward jusqu'en 2015, où il va s'inscrire à une game jam dont le thème c'était Deception, et non pas donc Deception, ça ne veut pas dire la déception, c'est un
faux ami, comme on dit.
Tout à fait, hein. Révisez vos cours d'anglais, quatrième, votre workbook, sortez votre workbook s'il vous plaît. Deception, ça veut dire la tromperie, la duperie, la mystification, n'est-ce pas? Et du coup, lui il se dit avec ce thème-là, qu'est-ce que ce serait la plus grande tromperie qu'on pourrait faire avec un jeu? C'est de dire qu'il n'y a pas de jeu, et c'est à partir de ce titre. Là, donc There is No Game, qui va construire ce petit jeu qui est d'ailleurs jouable sur Steam, hein. Vous pouvez le télécharger gratuitement, c'est There is No Game, entre parenthèses 2015, vous pouvez trouver ça dure 10-15 minutes, et c'est vraiment l'équivalent du tout début du jeu. On retrouve déjà pas mal d'éléments, il y a cette voix du narrateur qui marquera après le jeu, on reviendra évidemment dessus par la suite, il y a ce côté un petit peu je vais utiliser des éléments d'interface pour progresser, il y a aussi des références un petit peu à la pop culture, et encore, la pop culture, c'est peut-être pas le bon terme, aux références vidéoludiques du moment. Il y a une référence à Escape Goat, qui était un jeu un petit peu populaire, là, dans les années 2013-2014, il me semble que c'était un puzzle platformer. Bref, il y a tous ces éléments-là qui sont là, et le jeu va... Alors, je sais pas si je me souviens plus s'il va gagner la
Game
Jam.
Oui, il gagne, puisque, pour l'anecdote, il y avait une Xbox One à la clé.
Voilà, c'est vrai qu'il
y a... il l'a gagné.
Voilà. Il est parti avec sa petite Xbox One, donc voilà. Je suis très content pour lui. Mais surtout, ce jeu-là, il va faire... Ce petit projet va faire beaucoup parler de lui, en tout cas momentanément, puisque ni plus ni moins que PewDiePie qui va en parler, en tout cas y jouer dans une de ses nombreuses vidéos. Il me semble que Squeezie va aussi le faire. Donc voilà, il y a toute une les gros youtubeurs qui vont faire une petite mise en lumière comme ça de ce jeu-là, jusqu'à
une grosse mise en lumière.
Oui, grosse mise en lumière. C'est c'est 60 millions de vues, je crois.
PewDiePie, il éternue, ça fait des millions de vues. Hein. Non mais. C'est ça, c'est-à-dire que j'imagine que là, d'un coup, c'est 4-5 millions de personnes qui voient ton jeu, ça fait rêver, quoi.
Déjà, là, j'ai regardé il y a quelques jours la vidéo de Squeezie dessus, c'était 10 millions de jeux.
Donc du coup, c'est vrai que ça donne énormément de visibilité à ce petit projet, et Pascal se dit il faut battre le fer tant qu'il est chaud, et se dit dans la foulée, lance un Kickstarter. Alors dans la foulée, ce sera quand même quelques mois après,
novembre 2016,
donc voilà, c'est presque un an après, donc dans la foulée, grosse foulée quand même. il va lancer son Kickstarter, et malheureusement ça ne fonctionnera pas du tout. Il demandait 32 000 euros, il en récupérera un peu plus de 3000, donc c'est un fail à peu près classique, hein, comme il y en a beaucoup sur Kickstarter, mais cette lecture qu'il avait fait de ces 60 millions de vues en se disant il y a beaucoup de gens qui connaissent le jeu, du coup quand on va sortir le Kickstarter ça va fonctionner. Ils avaient d'ailleurs ils avaient envoyé plein de mails à toute la presse pour faire parler d'eux, mais en fait il y a eu très peu de vues. Il me semble d'ailleurs que le trailer du Kickstarter c'est 6000 vues, donc on est passé de 60 millions à 6000 vues.
Je crois que c'est ce qu'il dit dans la dernière news du Kickstarter quand il annonce la fermeture. Ça s'est pas vu, donc ils sont déçus, mais ce qui est intéressant à regarder, c'est que les Kickstarter ça permet de rappeler que ça ne marche pas tout le temps. Il n'y a pas 100% des Kickstarter qui fonctionnent, c'est même la majorité qui ne marche pas et la minorité qui fonctionne, et ça demande surtout beaucoup de préparation, une notion aussi du momentum, parce que c'est vrai que si tu attends un an entre le truc, si le Kickstarter était sorti deux jours après la vidéo de PewDiePie, ça aurait été un coup de com énorme. J'ose pas imaginer le truc, parce que PewDiePie aurait pu dire au fait Kickstarter.
Et encore, tu vois, c'est pas tant je pense pas que la faute entre guillemets, que le problème, l'échec, il soit vraiment dû à la campagne Kickstarter en elle-même. Il a peut-être fait tout ce qu'il pouvait, c'était plutôt l'erreur, elle était plutôt de croire en fait que ces 60 millions de vues ou 100 millions de vues, je sais pas à l'époque, allaient être facilement convertis, c'est-à-dire que les gens allaient se souvenir du jeu auquel a joué Squeezie il y a un an ou peut-être même plus. Et c'est pas même ça, il le reconnaît, tu vois, il dit en fait ces vues-là, elles sont plus rattachées au let's player à la communauté du youtubeur qu'au jeu en lui-même. Puisque croire que tu vas surfer sur cette vague, en fait, un an après, la vague, elle est complètement passée. Les gens, ils ont oublié ce petit jeu et surtout, ils ont tout vu du jeu.
Quoi. Oui, et puis aussi, il y a même ce côté, en fait, à l'échelle d'un viewer, je sais pas, de Squeezie, ce moment de jeu, ces 15 minutes où tu vas jouer un jeu, c'est totalement anecdotique par rapport à tout le contenu que produit un Squeezie sur un an. Donc, forcément, en internet, tu vois, un an, c'est très très long. Et pour une expérience qui dure 15 minutes, qui t'a fait juste rigoler sur une vidéo d'un Squeezie, c'est un grain de sable, quoi. C'est rien du tout. Donc, c'est vrai qu'il y a eu cette lecture-là qui a fait que ça n'a pas forcément.
Un petit parallèle, je me souviens du coup d'une intervention de The Pixel Hunt qui parlait à propos de Enterrement mon amour, donc qui était sorti sur téléphone. Squeezie y avait joué justement et il avait dit Squeezie, il a joué au jeu, ça a fait tant de millions de vues et en fait, ça n'a pas fait de vente du tout. Par contre, il a vu que le jeu était bien référencé désormais sur les sites de BitTorrent et en gros, voilà, ça a pousser les gens à le télécharger de manière illégale, mais ça n'a pas forcément transformé des ventes. Donc ça permet, c'est ça, de relativiser le... j'imagine qu'il doit y avoir des ratios, vous savez, de transformation entre les influenceurs, etc. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, je pense que petit à petit, le marketing s'est beaucoup intéressé aux micro-influenceurs, comme on dit, parce que comme en général, on a des plus petites communautés, on a peut-être un rapport plus direct, les gens y font plus confiance.
C'est de l'engagement.
Voilà, il y a plus d'engagement, etc. Donc,
Et il y a une différence énorme entre regarder quelqu'un jouer un jeu, tu dis ah il a l'air cool et tout et moi aussi je peux avoir mon expérience parce que ça a l'air cool à jouer ou parce qu'il y a des choix, donc ton expérience peut être différente déjà de la personne qui joue, et il est dispo maintenant sur Steam en ce moment que une vue qui va être au courant du Kickstarter du jeu de Game Jam qui sort un an après, tu vois, c'est un autre univers.
En fait c'est pas du tout le même canal, c'est à dire que les gens que Squeezie touche ne sont pas forcément les gens qui vont entendre parler d'un Kickstarter d'un jeu, enfin on est sur des publics totalement différents, bref ça ne fonctionne pas du tout pour lui, mais par contre, voilà, malgré cet échec du Kickstarter, Pascal, il y croit quand même parce que malgré tout, en voyant la réaction de ces gros joueurs, il se dit il y a quelque chose parce qu'il se marre et tout. Donc, il croit en son projet et il décide quand même de se lancer sur ses fonds propres. Il demande d'ailleurs à deux personnes qui avaient bossé avec lui sur le studio indé, la Nîmes, de le rejoindre pour fonder ce studio Draw Me a Pixel et ils vont se lancer sur leurs fonds propres. En 2018, ils auront une aide du CNC, puisque oui, il faut le savoir que le CNC, le Centre National du cinéma,
du cinéma et de l'image animée.
Effectivement, il faut rajouter l'image.
Il y a le FHJV, le fonds d'aide aux jeux vidéo, qui du coup tous les ans vous pouvez envoyer des projets, ils peuvent financer à hauteur de 50% votre production, donc le budget que vous allez, si vous demandez, vous avez besoin de 200 000 euros par exemple pour créer votre jeu, vous avez le droit de leur demander une aide à hauteur de 100 000 euros. C'est une subvention, donc en plus il n'y a pas forcément de remboursement derrière. On a la chance d'avoir ce genre de petit dispositif.
Et du coup, ils obtiendront 25 000 euros, car oui, j'ai fait mon enquête, je suis allé chercher, puisque c'est des chiffres publics, donc forcément, on y a accès. Donc, on peut imaginer que le budget du jeu, ça a été 50 000 euros, ce qui n'est pas grand-chose quand même, sur un jeu produit en France, même si c'est par juste 3 personnes. Le jeu a été développé sur 3 ans. Après, il y a eu d'autres prestataires externes et compagnie. Donc, je crois qu'il l'a dit, de toute façon, il ne s'est pas rémunéré pendant 3 ans. Donc
bien que c'est soit de la love money, c'est-à-dire ce qu'on appelle la love money, c'est l'argent des proches. C'est, les grands-parents, les cousins, les tantes qui vont investir, qui vont prendre éventuellement des parts dans ta société pour essayer de t'aider et te donner un peu de trésorerie, les fonds propres, parce qu'on imagine qu'à presque une quarantaine d'années, il avait un peu d'épargne, il a probablement vidé son PEL pour faire le jeu. Enfin, c'est un scénario finalement très classique de dev de jeux vidéo et et je trouve que c'est vraiment une histoire qui est très emblématique de la réalité de la majorité en fait des gens. C'est-à-dire que il galère pendant 15-20 ans et peut-être au bout d'un moment il y a un jeu qui
peut-être parce que c'est ça, vraiment ça a été vraiment un coup de poker, mais c'est vrai que c'était quand même une aventure risquée de se lancer là-dedans et on le sait aujourd'hui, ça a bien terminé, mais c'était pas forcément gagné. Pour revenir un petit peu sur la création du jeu en elle-même, ça va vraiment être une itération de ce prototype, de cette espèce de petit jeu de game jam qui avait été fait. Donc de toute façon, comme dit, c'est le début de l'intro, c'est quasiment la même chose que le jeu final, et puis après Pascal il va s'engager dans d'autres genres, il va essayer d'aller embrasser ce truc un peu méta et il va aller prendre des références au point and click, au Zelda des années 90, bref j'imagine les jeux qui l'ont marqué quand il était plus jeune, et il va essayer d'embrasser tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que comme c'est un point and click, il a eu un processus créatif très, très libre, c'est-à-dire qu'il a pu se permettre de faire plein de choses et il ne savait pas forcément où il allait à chaque fois. Il se disait, ah bah tiens, je vais pouvoir utiliser cet élément, et puis ah bah en utilisant cet élément, je peux faire ci. Donc son humour a pu quand même beaucoup s'exprimer dans la création même du jeu, mais en même temps, ça a aussi été compliqué parce que bah, comme c'est un jeu qui utilise des mises en jeu très différentes, c'est pas quelque chose de c'est pas un jeu système, on va dire, sur lequel bah, tu vas pouvoir créer et construire empiriquement et ta boucle va se renouveler comme ça. Donc ça a demandé quand même beaucoup de travail. Il le disait, c'est quasiment comme s'il avait créé 4 ou 5 jeux différents. Ouais. Et ça a demandé tout ce travail-là pour pouvoir fournir ce petit jeu qui dure 4-5 heures, on avait dit.
C'est ça, ouais. Alors il n'a pas mis que des références des jeux de son enfance. Il a aussi fait tout un petit chapitre donc, sur les free-to-play où on sent bien que c'est quelque chose qui ne lui plaît pas du tout. Donc c'est assez marrant, il le dit d'ailleurs en interview, hein, que c'est vraiment un genre pour lequel il a quand même beaucoup de défiance. Donc il l'exprime à travers son jeu. Au final, ce mélange-là, il arrive également à le nouer parce qu'il y a tous ces mini-jeux et puis surtout, il y a une histoire effectivement, qui se révèle un peu sur le dernier tiers du jeu. Donc ça permet comme ça de donner finalement la cohérence à ce truc au début où on a l'impression que c'est juste un enchaînement de blagues. Ouais, en fait, pas du tout. Twist, il y a une vraie histoire.
Il y aura un beau succès critique au final, ça marchera bien, même si on a regardé sur Metacritic, il y avait genre quoi, 9 reviews, donc il a quand même pas eu un gros relais dans la presse, hein. D'ailleurs on s'amusait à faire la comparaison encore une fois de Red Screen Club, où on voyait qu'il y avait eu 43 reviews, et voilà, de Red Screen Club qui a Devolver derrière, donc encore une fois ça appuie l'idée qu'avoir un éditeur derrière, ça assure un certain relais dans la presse.
Sachant que les deux jeux ont un nombre à peu près similaire de user reviews, donc de gens qui ont noté le jeu sur Metacritic. Critique. Donc, pour un nombre, comme tu l'as dit, c'est 5 fois plus de reviews presse pour Red String Club, quoi.
Mais du coup, il a quand même eu. Il a profité, lui, on peut vraiment le dire, d'un vrai bouche à oreille. Ce n'est donc pas forcément la presse qui a permis à ce jeu d'exister et de trouver son public. C'est beaucoup plus des influenceurs. On peut, finalement, ça a quand même marché, même si c'est beaucoup plus petite échelle. Mais justement, toi, c'est Atomium qu'on avait.
J'avais vu Atomium quand on avait parlé parce qu'il avait manifestement adoré. Puis il y avait Doc Gero aussi qu'on avait parlé un petit peu. Donc, du coup, voilà, tu vois, de fil en aiguille, quand on commence à avoir plusieurs personnes dans son fil Twitter qui dit tiens, ce jeu il a l'air d'être sympa, ça m'avait fait pareil avec Outer Wilds, c'était Sophia de Game Spectrum qu'on avait parlé, au final à chaque fois tu fais des petites découvertes et c'est vrai que c'est vraiment un bon exemple de ces jeux qui sont où il y a la prescription se fait plutôt par la bouche à oreille des gens qui vont le faire en stream etc, et c'est comme ça finalement que il a eu son succès quoi.
Et d'ailleurs je crois que sur Game Cult je crois que c'est Pippo Mantis qui l'a testé à l'occasion de la sortie sur Switch, parce que je pense qu'il y a eu ce côté c'est vrai que maintenant ce jeu il est un peu plus connu, c'est l'occasion en fait, c'est la bonne occasion.
Oui, ça c'est vraiment intéressant parce que tu vois que qu'un site comme Gamekult décide de faire le test longtemps après la sortie, ça veut dire quand même que justement il y a eu un engouement et on se dit on va continuer, on va capitaliser sur cette visibilité pour en faire un test. Donc ça c'est pas forcément le schéma classique
dans le même système avec Undertale.
Tout à fait, j'allais le mentionner,
le jeu était sorti des mois après, on avait réussi à se dire on l'a raté, voilà, il faut qu'on fasse le test. Du coup j'avais eu l'occasion de le tester, mais c'est vrai que c'est pas souvent, mais ça peut arriver en fait tout simplement par le nombre de jeux qui sortent, et des fois tu passes à côté d'un truc, t'en as pas entendu parler, donc c'est là aussi que tu dis, en fait ça me fait penser, je vais pas lancer une énorme parenthèse, mais ça me fait quand même réfléchir cette idée de nombre de visibilité, tu vois, le fait qu'il y ait Devolver, le fait qu'il y ait des relations presse qui soient probablement beaucoup plus travaillées, c'est là que tu vois qu'il y a quand même une espèce de petit biais ou de petit mur qui fait que pas mal de jeux n'arrivent pas du tout à se faire toucher, à toucher justement les rédactions professionnelles, et passent à côté potentiellement d'un peu de vue quoi.
Mais là ça aura quand même fonctionné, on l'a vu, il y a 10K reviews sur Steam, donc c'est quand même un beau petit score pour ce jeu qui a eu un budget, on l'a dit, de 50 000 euros. Aujourd'hui, il a été très très bien rentabilisé. Le studio, il a pu consolider sa position, et je crois qu'ils ont embauché 2 autres personnes pour un prochain projet, et voilà. Donc ça s'est bien passé.
Et il y a eu d'ailleurs pas mal de prix, parce qu'il a...
Oui, alors, c'est vrai, oui,
il y a eu un Pégase. Il est nommé, il y a eu un Pégase, et je crois qu'il a eu le meilleur jeu indé, il me semble, ou meilleur game design, je sais plus. Et par contre, il est nommé, il fait partie de la liste des nominés à l'IGF pour le game design.
C'était pas mention honorable, non? Il avait un vrai catégorie.
Je lâche, t'avoue.
Je vois le doute dans les yeux.
Soit mention honorable, soit nommé dans une des catégories. Mais en tout cas, sachant que l'IGF, c'est un bon outil de curation aussi pour voir des jeux. Et t'en as pas mal finalement qui sont pas forcément repérés par la presse.
Et aujourd'hui, il est enfin du game, et ça, c'est le couronnement ultime, j'ai envie de dire.
Normalement, du coup, d'ici 3-4 jours, ils vont annoncer la suite. Enfin,
On l'a annoncé sur le Discord, il est sorti sur Switch, donc j'ai dit merci fin du game, encore une fois. Et maintenant, Pascal, voilà.
De c'est rien. Le 3 bientôt, donc, vous pourrez le voir entre Elden voilà, Ring et Hollow Knight Song, There is no game 2. Tu
bien
vois,
sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc une belle fin d'histoire, on va dire, pour Pascal, qui a voilà, je crois, 45 ans, c'est enfin un succès, le studio qui est bien installé. Donc voilà, ça fait plaisir et c'est intéressant de voir un parcours qui est, en fait, peut-être atypique par rapport au parcours dont on peut parler dans Fin du Game, parce qu'on raconte souvent bah, des success stories comme ça, mais par contre qui est beaucoup plus bah, typique à l'inverse de ce qui se passe réellement dans, le, bah, dans l'industrie du jeu vidéo.
Et encore là, ça reste une success story.
Oui,
hein,
oui, c'est ça, c'est-à-dire que long, c'est pour ça qu'on a dit peut-être, mais ouais, en fait il y a peut-être des gens voilà, qui n'ont pas, ils ont pas eu le bon embranchement, ils n'ont pas la good ending à 45 ans. Et, voilà.
Et c'est l'occasion de rementionner une conférence de la GDC qu'on a déjà mentionné plusieurs fois dans l'émission, où donc c'est un dev anglais qui parle du fait d'être indépendant sans jamais connaître de best-seller ou de succès et qui développe depuis une vingtaine d'années des jeux assez casual. Hein. Il fait des jeux de tarot, il fait des jeux de solitaire, il fait des jeux de cartes comme ça qui se vendent plutôt bien et il arrive en fait à fonctionner de cette manière-là depuis une vingtaine d'années. Donc il explique comment faire pour vivre sans jamais connaître le succès.
Et puis on avait parlé aussi de Mike Bissell après Thomas Wazolone qui lui a été un gros succès. Hein. Clairement, il a eu suffisamment d'argent pour faire un studio et tout, mais qui depuis sort des jeux qui sont pas des gros succès. En fait, il a, c'est bon, il a sa niche, il a sa communauté, mais bon, il fait plus de jeux qui vendent un million, tu vois. Ils sont aussi dans une optique bah, de petits jeux voilà, qui va se rendre à son audience. Ils vont mettre, je sais plus, peut-être de 6 mois, 2 ans pour le faire, et puis, bah voilà, ça roule, en fait, ça roule pour eux.
Totalement. On va pouvoir passer à l'histoire désormais, et comme je crois que c'est bien frais dans l'esprit de notre cher Benoît National, eh bien, c'est toi qui vas t'y coller.
Loser. Ah oui, non, mais j'avais essayé de préparer ma voix et tout. Je l'avais fait à l'interphone.
Tu révèles les vraies coulisses. Hein, parce qu'on est très espiègles entre nous. Voilà.
On se fait toujours des petites blagues voilà, à l'interphone. Non, mais il faut.
On est des enfants. Hein,
voilà. Il faut glisser des petits trucs pour le lore. Hein, pour les gens, ça va les occuper.
Ils t'apprennent sur le Wikipédia. Alors, ils se font des blagues à l'interphone.
Donc bref, dans There is no game, quelle est l'histoire? On parle du personnage principal qui est Game, justement, le jeu. Nous, on joue l'utilisateur ou l'utilisatrice qui voudrait jouer à ce jeu-là. Mais voilà, dans There is no game, quand on arrive, eh ben, en fait, il n'y a pas de jeu. Le jeu nous dit, désolé, il n'y a rien du tout, on ne peut rien faire. Et donc, comme nous, on insiste et qu'on est un peu relou parce qu'on n'arrête pas de cliquer partout sur l'écran, au bout d'un moment, le jeu se dit, bon, vous me saoulez, je vais vous faire jouer. Tu veux jouer? Bah tiens, regarde, voilà, hein, casse-brique, voilà. Donc petit à petit, en fait, on va jouer avec les éléments du décor, il va mettre en place des petits systèmes pour essayer de nous occuper, on va jouer avec ces trucs-là, on va se rendre compte que bon bah il n'y a toujours pas vraiment de jeu, au bout d'un moment il va y avoir Mr. Glitch qui arrive, qui vient foutre la merde.
On va le libérer à un moment justement à force de bidouiller des choses sur l'interface, on va casser un truc.
Le système d'exploitation, là, le Flying Squirrel OS, et donc Mr. Glitch arrive, il a un plan machiavélique qu'on ne connaîtra jamais, c'est un des running gags du jeu, on ne connaîtra jamais son plan, et donc on se retrouve à voyager entre les dimensions, donc en fait on va se voyager avec le jeu et nous donc dans différents jeux, on va aller faire un coucou à Sir Arthur Conan Doyle plutôt et Sherlock Holmes avec Watson dans un point and click. Ensuite on va aller faire un coucou au héros d'un Zelda, le Legend of the Secret, j'adore le titre avec la grosse voix et tout, c'est vraiment super drôle. Ensuite ça devient un free to play et là tout le monde va mourir parce que le free to play c'est le mal absolu dans l'univers de There is no game, et l'objectif en fait dans ces petits niveaux c'est de trouver le portail dimensionnel pour essayer de revenir au jeu original. En fait une fois qu'on a fini le free to play, là, petit twist, il n'y a plus de budget, donc on est obligé de se retrouver face aux crédits du jeu, et en fait, retwist incroyable, les crédits sont en fait un jeu dans le jeu.
There is a game again,
exactement, on va jouer avec les éléments du décor, c'est un passage que j'ai adoré, moi, les crédits, donc c'est vraiment très très cool, et c'est là, en fait, où vraiment l'histoire va embrancher, c'est-à-dire que depuis le début, on sait que Game est à la recherche de Gigi, sa copine qui a disparu. On va apprendre à ce moment-là que Gigi, c'est l'acronyme en fait de Global Gameplay, et donc le gameplay de jeu a été enlevé, et donc l'un sans l'autre ne peuvent pas exister. Ils ont une relation fusionnelle, symbiotique, qui n'existe
plus. Cohérence vidéoludique, hein, voilà, c'est tout à fait ça.
Elle a été retirée pour être une feature dans un autre.
Dans un programme de GPS, parce que ben il faut bien manger. Et en fait, c'est à ce moment-là où justement le jeu va vraiment basculer vers le côté réaliste, puisqu'on va se retrouver dans le téléphone du créateur du jeu qui comme par hasard a la même voix que Game et Mr. Glitch. Et donc, en fait, on va se retrouver un petit peu dans le monde réel. Mr. Glitch, lui, il arrive à se balader dans le monde réel grâce aux objets connectés, comment s'appelle ça, le Internet of Shit, Internet of Things ou Shit, comme tu veux. Et donc, il va faire le con, quoi. Hein. Il va défoncer des, il va faire des trucs. C'est quoi avec les feux tricolores, c'est ouais, ça, idiot.
Oui,
c'est quoi ces petits trucs qui clignotent. Bref, voilà. Il fout un peu le why.
C'était ça son plan machiavélique, c'était foutre le dawa avec les trucs connectés.
C'est un glitch, quoi, tout simplement. Ensuite, il revient dans l'ordinateur. Le créateur enlève le câble RJ45 et donc le glitch est bloqué et donc on va essayer de fusionner à nouveau le gameplay avec le jeu et à la fin il est heureux et eurent plein de petits DLC, le monde est sauvé, le jeu existe et en fait on découvre que le vrai jeu c'est une aventure d'un chevalier écureuil volant. Tu découvres, t'as deux trois écrans. C'est un peu une intro à la Shovel Knight,
c'est un peu le délire.
Et là en fait il y a le glitch qui est là, coucou je suis là, et voilà, et c'est la fin tout simplement.
Ce qui est intéressant c'est que cette dernière partie elle est vraiment en FMV, hein, puisque c'est Pascal Camisotto, hein, qui s'est filmé, qui s'est mis en scène comme ça devant son ordinateur. Donc il y a vraiment une alternance entre des passages comme ça en vidéo avec une surcouche, on a vraiment l'impression d'être justement de l'autre côté de l'écran et de le voir à travers son écran d'ordinateur. Donc c'est comme ça un petit peu que ça se termine. Et on comprend aussi comment le créateur a un peu insufflé sa propre histoire dans le jeu. On va peut-être revenir un petit peu sur comment le jeu est fait. On parlait d'un point and click, c'est ça. Moi, je savais pas que c'était un point and click justement en me lançant dans le truc parce que je pensais que c'était
twist.
J'avais vu des images du jeu et je voyais justement, on m'a dit c'est un peu une parodie, donc j'avais vu les images du point and click, mais j'avais vu aussi les images du Zelda-like. Je me suis dit je m'attends à ce moment-là, on va diriger le personnage comme un Zelda, mais pas du tout. En fait, tout au long du jeu, on est vraiment sur des mécaniques de point and click, c'est-à-dire qu'on va au fur et à mesure pouvoir décrocher, voler des objets de l'interface ou du décor et les faire comme si ça devenait des objets d'inventaire dans un point and click, et on va pouvoir les utiliser pour créer des interactions, créer des solutions, créer des combinaisons, et ce qui va nous permettre de progresser dans le jeu. Donc c'est vraiment un point and click moderne en fait, hein. C'est vraiment une façon de remettre un petit peu ce genre devant le devant de la scène, parce que ça fait un moment qu'on des point and click vraiment traditionnels, il y en a plus vraiment.
On en avait parlé à l'époque de l'épisode sur The Walking Dead, justement il y a eu une évolution de l'aventure en tant que telle, vraiment avec des moyens de production beaucoup plus orientés vers la 3D, etc. Donc le point and click est devenu un peu désuet. Il y a toujours une scène assez prolifique, hein, de jeux, si vous cherchez. Dave Gilbert avait ressorti donc un Fumbleweed Park, ou
Tumbleweed Park,
ça fait partie des gens donc qui avait fait Monkey Island à l'époque, et il y a d'autres jeux, Wadgetai notamment, qui continuent à produire pas mal de point and click.
Mais c'est vrai que Dropsy aussi chez Devolver,
c'était pas ouf. mais voilà, en gros il y a eu une espèce de vraiment un arrêt de ce style de jeu. C'est devenu vraiment un truc de niche, et donc là le fait de le revoir, une espèce de revisite un peu moderne, c'est pas mal. C'est vrai que c'était intéressant parce que ça permet de montrer des mécaniques auxquelles on n'avait peut-être pas forcément pensé à l'époque,
et puis c'est pas puisque la recette un peu classique du point and click, ça va être aussi typiquement en pixel art, avec des décors, tu vas déplacer ton personnage, il va interagir avec le décor. Mais là c'était l'occasion justement d'innover un peu en montrant de nouveaux éléments diégétiques ou extra diégétiques, et ce que tu vas voir typiquement dans le chapitre justement le point and click, là on est sur
un hommage,
on est à la fois sur un point and click très classique avec des personnages qui vont agir un peu avec l'environnement, mais il y a ce côté déjà un peu sur couche avec les coulisses, un peu c'est une pièce de théâtre, mais on peut aussi tourner la télé, jouer avec le câble, faire de la neige, donc c'est un point and click dans le point and click, et aussi quand on va continuer avec le Zelda, du coup là il y a les icônes qui sont sur l'écran et qui sont d'habitude des icônes de RPG, mais ça va devenir des éléments de point and click, donc c'est là qu'il est un peu plus moderne en fait, c'est que on va interagir avec de nouvelles choses qui ne sont pas dans l'univers du jeu, mais dans notre univers à nous entre guillemets.
Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ce côté finalement un peu méta, parce qu'on comprend un petit peu très vite que son idée, lui, ça va être de jouer avec cette espèce de think outside the box, c'est-à-dire je vais essayer de penser différemment face aux éléments que j'ai devant moi. Donc voilà, la barre de vie, c'est pas vraiment une barre de vie, en fait ça peut être un bâton, ça peut être quelque chose de solide, ça peut être quelque chose que tu vas utiliser comme, je sais pas, un outil, un tournevis, bref, on va détourner des objets de leur affordance première, hein, pour pouvoir commencer à aller vraiment dans les bails vidéoludiques.
Sur le bingo, ça.
Affordance, on n'a pas mis. Bon, on n'utilise pas tant.
Il y aura un bingo 2.0 l'année prochaine. On en refera
bingo
une.
Avec affordance. Il y aura affordance. Et ce qui est intéressant, c'est que cette couche méta, je trouve que ça donne une espèce de cohérence un peu à tous ces puzzles, parce que c'était un petit peu. En tout cas, moi, c'est vraiment mon problème que j'ai avec les point and click, c'est que c'est des blagues en fait, et je trouve ça tellement. je n'arrive pas à me mettre dans la tête des créateurs. Je me souviens vraiment de cette énigme de Grim Fandango où il faut prendre un panneau de signalisation, il faut le prendre avec toi, il faut l'emmener à un autre endroit, et ce panneau de signalisation, il t'indique une cachette. Donc j'étais là, j'ai dit non, je suis désolé, ce n'est pas pour moi. Et je trouve que c'est intéressant parce que cette couche méta, elle arrive quand même à donner une sorte de simili-cadre au puzzle. Ça ne peut pas partir non plus dans tous les sens. En plus, il n'y a pas 1000 points d'interaction. Donc ça permet un peu de cadrer les puzzles, et je trouve que c'était assez malin de le faire comme ça. Ça évite de partir dans un délire très 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 frustrant qu'on peut avoir à l'ancienne dans les potes.
Ouais, clairement, on n'est pas du tout dans un Sam & Max où là, typiquement, les solutions, elles n'ont aucun sens. Enfin, tu vois, tu vas utiliser un crocodile, après tu vas faire du golf avec le crocodile que tu auras transformé en club de golf. Enfin, il y a des trucs qui n'ont aucun sens, et c'est souvent, tu vois, souvent les point and click, tu avais un côté effectivement assez frustrant où si déjà tu comprenais pas la langue, parce que bon, forcément c'était souvent en anglais, mais trouver la solution, comprendre ce que les devs ils voulaient que tu leur fasses faire, en soi, c'est pas si intéressant que ça. C'est-à-dire que l'action en elle-même n'est pas si cool. Là, avec There Is No Game, ce qui est bien, c'est qu'on peut comprendre ce qui se passe. On se dit, alors, on voit qu'il y a une vis, on voit qu'il y a un pas de vis, un tournevis plat, on se dit, je vais chercher un tournevis. Et là, comme par hasard, tu tombes sur un tournevis. Donc, il y a quand même, voilà, une espèce de logique.
Ou alors, tu vas avoir une pièce, justement, ouais. Tu vas pouvoir récupérer une pièce qui est un gold coin typique du jeu vidéo. Et en fait, comme il est plat, tu peux l'utiliser comme un tournevis. Donc, on va détourner des objets. Alors, parfois, il y a des choses qui sont un peu alambiquées quand même. Je sais que Max, toi, tu te souviens de l'énigme
la neige, ouais. Quand t'as le rituel dans le point and click où il faut réunir certains éléments et il faut avoir une glace. Enfin, de toute façon, ça c'est aussi un truc que tu dois déjà avoir dans les point and click, c'est que tu fais des éléments plus ou moins. C'est peut-être une référence d'ailleurs à Monkey Island. Je me souviens dans le 1, t'as un rituel vaudou aussi à faire. Tu sais, il faut un poulet, tu prends un poulet en caoutchouc finalement. Enfin, voilà, c'est des ingrédients qui collent plus ou moins, ouais, à la recette. Et là aussi, il faut donc un cône de crème glacée. Et en fait, la glace, ce sera la neige, c'est de la neige en fait. Mais là, c'est de la neige de l'écran statique. Il faut retourner l'écran, débrancher le câble, faire de la neige et voilà, mettre ça dedans.
La neige, oui. Quand Canal+, tu débranchais Canal+, on parle peut-être à des gens qui ont peut-être 15-16 ans. Et qui ne se souviennent pas.
La télévision.
À une époque, si t'allais sur la 4, ça faisait.
Mais il y a des aides. Tu peux, sur le jeu, c'est bon, il assume de vouloir garder un rythme aussi assez rapide. Hein. C'est découpé en chapitres aussi qui sont vraiment différents. Et puis voilà, on n'est plus dans les années 90, on a Internet, il suffit de taper la solution pour trouver. Donc c'est un jeu qui assume ça et qui va te dire. Où tu peux, enfin avec quel objet du décor tu peux interagir. Il y a 3 niveaux d'indices, je crois, ou 2, ça dépend.
Ça dépend des puzzles.
En fonction de la difficulté, et il peut te donner l'astuce. Alors tu te fais huer quand même quand tu demandes un indice, il y a un public qui fait
ouh, comme ça. Ouais.
Et tu as un petit timer de genre 10-20 secondes, on ne sait plus trop, mais qui du coup te force quand même un peu à réfléchir un minimum, c'est-à-dire que tu sais avec quoi il faut interagir. Le jeu t'a donné un petit indice, genre peut-être qu'il faut faire ça avec ça. Du coup, il te laisse quand même 10 secondes, je pense, pour pas que tu spam à mort et que tu rushes la soluce. Il te force, entre guillemets, comme on a dit, c'est 10-20 secondes, donc c'est pas horrible, mais il te force un petit peu à réfléchir.
Je trouve que c'est un bon dispositif parce que comme tu le dis, ça, c'est un jeu qui a conscience qu'aujourd'hui, ça n'a plus de sens de faire comme si on n'allait pas chercher la solution ailleurs, donc autant la mettre directement dans le jeu et intégrer déjà des éléments qui soient profs, qui ne vont pas te sortir du jeu, parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui me gonfle, en fait, tu vois, de devoir dire, attends, je quitte le jeu, je vais voir la solution et tout. Là, c'est vrai que c'est tout dans le jeu, donc ça permet, comme tu dis, de garder cette espèce de fluidité, parce qu'il faut le savoir, hein, moi, je n'aime pas du tout les point and click, donc j'ai une patience qui est zéro, donc
même pas que pour les point and click. Moi, j'ai eu un exemple tout à l'heure, on l'a vu au bout de 2 secondes. Pourquoi on peut pas passer les cinématiques?
Voilà. Donc vous savez à qui vous avez affaire désormais. Et mais je trouve que c'était un bon choix de le faire. Et encore une fois, pour moi, ça s'inscrit dans cette idée de faire un point and click qui est moderne, qui est bien dans son temps et qui va se délester un petit peu de ces choses peut-être un peu trop absurdes qu'on pouvait trouver dans les point and click à l'époque.
Et sinon, on peut citer. Moi, j'avais quand même envie de citer le jeu parce qu'on parle de jeu méta et tout. Alors déjà, on l'avait pas cité, mais lui, il s'inspire évidemment de Stanley Parable.
Tout à fait. Oui, c'est vrai.
Pour le narrateur, le côté un peu méta, même si Stanley Parable, c'était beaucoup plus entre guillemets Walking Simulator. Là, dans le point and click, on peut citer qui n'est pas un point and click du coup sorti en 2016, si je dis pas de bêtises, il y a Pony Island qui était un peu une espèce de jeu de plateforme, mais en fait, c'est aussi un jeu dans le jeu où tu vas pouvoir trifouiller un peu dans l'OS. Il y a quelqu'un qui va envoyer des messages de chat qui te dit que non, en fait, il faut un peu sortir du jeu, il faut. Je sais plus, casser des trucs, enfin bref, il faut il faut hacker un petit peu le jeu. Bon, à titre personnel, j'avais trouvé beaucoup moins réussi.
J'ai pas du tout adhéré personnellement, j'ai
fait les deux tiers et j'ai arrêté là. C'est vrai que ça m'avait pas plu parce que en fait, il y avait des phases de plateforme, mais du coup, au premier degré, c'est pas vraiment des phases de plateforme avec des mécaniques de plateforme. Alors que bon, là, There Is No Game, bon, bah, comme on l'a dit, c'est un point and click du début à la fin, même s'il y a d'autres jeux RPG et tout. En fait, non, c'est un point and click avec des décors de RPG, des décors d'autres choses. Et c'est l'occasion de dire aussi que, mine de rien, une voix de narrateur, c'est quand même, ça fait quand même vraiment la diff. On l'avait déjà dit, je crois, pour Gnome, où il y a des moments où des lettres sont lues par la sœur. Et tout est relatif, hein, mais c'est pas beaucoup de budget. Mine de rien, une voix, quelqu'un qui lit, c'est pas beaucoup de budget, mais pour un effet, pour moi, que je trouve tellement, entre guillemets, rentable, ou qui a une telle plus-value, c'est vrai qu'on le fait toujours pas assez. Hein, ou même, tu vois, Stanley Parable, on le disait, mais 80% de la proposition, c'est quand même le fait qu'il y a un narrateur qui fasse des blagues et tout, quoi.
Ouais, bah c'est vrai que ça donne tout de suite en fait une autre dimension au jeu. Bah, on parlait d'ailleurs d'Hadès au début, et c'est vrai que bah voilà, la voix là, c'est Darren Korb, c'est ça, ou c'est le compositeur?
Non, c'est le compositeur. Il fait aussi la voix de Zagreus.
Voilà, d'accord, il fait aussi la voix, et je crois que c'est enfin bref. En tout cas, c'est les jeux de Supergiant, ils ont toujours été associés à ce côté de voix, et ça donne vraiment cette surcouche et cette personnalité comme ça qui ressort du jeu. Et puis là, bah, c'est vrai qu'en plus, c'est toute une source un petit peu d'humour, hein, même la voix qu'il a, puisqu'il a une espèce de... on sent, hein, quand on est français, on sent que c'est.
Qu'il est français.
Franchouillard qui nous fait les voix off, même si dans le jeu ils essaient de confondre un peu avec du russe, est-ce qu'il est russe, est-ce qu'il est machin, il y a une façon de rouler un peu les voix, user comme ça,
il parle un peu comme ça permet de tromper un petit peu son monde, et c'est plutôt rigolo parce que du coup, bon, on peut le dire, hein, c'est Pascal Camisotto qui prête sa propre voix au truc, donc là ça coûte encore moins cher que d'embaucher un comédien ou une comédienne de doublage, et du coup le fait que ça soit lui qui intervienne comme ça, c'est que ça donne tout le cadre au jeu. S'il a fallu lire les choses, si on n'avait pas la tonalité, l'humour, les silences, etc. Enfin, vraiment, là, pour le coup, il a fait un vrai travail d'écriture et de rythmique de ce truc-là, et c'est ça qui fait l'essentiel de la réussite du jeu.
Il y a une spontanéité, en fait, qui passe par l'oral et qui est quand même assez importante.
Au début, avec les autres voix, où justement, il s'amuse à faire des accents, où tu te retrouves dans un écran de There Is No Game, mais dans d'autres pays, avec There Is No Jeu, Welcome User,
il y a des baguettes qui pleuvent,
il parle en
guillemot,
il y a des croissants qui tombent, et après, il y a la version russe, tu vois, où il est il fait des trucs, moi je suis pas très bon en accent, désolé. Et il y a un micro passage japonais, moi, qui m'avait fait mourir de rire, où il y a des chats qui se mettent à clignoter super fort, tu vois, il y a pas de jeu, mais ça reste quand même japonais, donc ça dans tous les sens. Bref, le fait d'ajouter comme ça la voix, ça te donne un cadre et ça donne une tonalité. En fait, tu sais tout de suite, on est dans un truc qui ne se prend pas forcément au sérieux, et du coup ça joue beaucoup, parce que comme c'est un jeu qui veut être drôle, s'il y avait pas ça, ça ne marcherait pas.
Bah déjà, il est drôle de base avec l'humour, tu vois, le cadre, il est drôle avec l'humour. Oui, okay.
merci cette analyse vous avez proposée par Fanny.
Le concept est drôle, où il va y avoir There Is No Game, et puis tu casses l'écran titre et tout, donc ça commence. De toute façon, tu joues avec le jeu. Déjà, de base, il y a une petite complicité. C'est un peu comme Stanley Parable, c'est-à-dire que le narrateur, il te met face à deux portes, tu prends celle qu'il veut pas, et il est un petit peu, un petit peu chafouin. Et là, c'est pareil, tu vois, tu joues en tapant sur les nerfs du narrateur. Donc tout de suite, de toute façon, il y a un concept qui est humoristique de base. Mais après, dans l'écriture, de toute façon, on a dit, il y a différents types d'humour, comme tu l'as dit, il y a le truc avec l'accent russe ou les mises en situation. Il y a peut-être un côté un peu, moi il y avait un type d'humour dont j'étais un peu moins fan, c'est vraiment l'humour de référence, où c'est juste il y a à faire une blague et ça se résume à t'as la ref ou t'as pas la ref, hein. Il y a Papers, Please, il y a un côté, toujours dans Monkey Island, côté où il va dire mais c'est une énigme tirée par les cheveux, c'est un peu comme si on prenait un singe, qu'on l'arrêtait avec un métronome et tout, ça c'est une ref à Monkey Island 2, mais après, il y a plein d'autres derrière ça, c'est-à-dire que
derrière ce bazinga, derrière l'humour un peu bazinga des refs, il y a d'autres formes d'humour peut-être plus élaborées et effectivement qui nous ont plus parlé. Après, moi ces petites références, pour moi, elles sont là pour ponctuer, et je trouve que finalement elles se glissent bien dans l'ensemble et dans la tonalité que ça donne. Je trouve que finalement c'est pertinent qu'elles soient là, entre guillemets. Ça permet aussi de créer cette petite complicité par aussi des refs communes, parce que le jeu a envie que tu rentres dans son jeu littéralement, donc forcément je pense que ces petites références, ça permet de se lier, de se dire on capte la même chose, vous et moi, même si on n'a pas toutes les références. Par exemple, moi, celle sur Monkey Island, je ne l'avais pas, évidemment, puisque je n'aime pas les panneaux. Oui, bref, vous l'avez compris.
Mais il n'y a pas que ça, parce que c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est vraiment les différentes couches d'humour. On s'est dit, tiens, on va essayer de décortiquer un petit peu tout ça. Celle qui fonctionne le plus et qui est, à mon avis, celle qui marche le mieux, et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense que le jeu est rigolo, enfin, en tout cas, c'est mon avis là-dessus, c'est le fait de détourner les codes du JV. C'est-à-dire que moi, en général, j'ai du mal avec les jeux qui se veulent drôles, parce que souvent, ils vont faire des blagues ou ils vont raconter des trucs, mais ils vont pas exploiter les codes du JV que là, étant donné qu'ils jouent avec leurs propres codes, leurs propres limites. Tu vois, la première fois que tu dis ah oui, d'accord, je vais utiliser un élément du décor qui d'habitude est un élément d'interface, mais là en fait il existe pour de vrai, donc je peux l'utiliser et ça devient un objet. À partir du moment où j'ai compris ça, je me suis dit ok, on va aller assez loin dans le trou du lapin, tu sais, façon Alice, et jusqu'où on va pouvoir aller. Et c'est vrai que c'est assez drôle de voir tout ce qu'on va pouvoir donner. J'en parlais tout à l'heure, là, l'épisode avec les crédits de fin, où en fait tu intervertis les noms des gens, tu changes leur rôle, et ça change le look, ça change la musique, ça change l'époque. Enfin, ça j'avais trouvé ça assez ingénieux, et c'est très drôle, très simple à comprendre en fait quand on a les codes un peu du JV.
Et juste avant ça, pour te faire comprendre ça, c'est qu'il met le nom, je crois, dans musique ou chanteur, tu sais, il met le nom du narrateur, et du coup il se met à chanter, tu vois. Et ça, et moi, le moment de la chanson, ouais, c'est un vrai bon moment du jeu, il se met à rapper, et après t'as la chanson de Gigi, tu dis oui, ok, ça part quand même loin, tu vois. C'est pas juste des blagues donc écrites, ou entre guillemets juste le concept de jouer avec les codes du jeu vidéo. Bah aussi voilà, il se tape un bon gros délire où il va chanter, et tu dis oui, ok, non, c'est cool quand même.
En plus, c'est ça, il te raconte des trucs, donc il t'aide. Alors, et oui, à chaque fois, enfin, vraiment l'écriture. Alors, je ne suis pas un expert de rap, hein. Nous avons ici l'expert du rap français à cette table, Hugo, enchanté. Mais ça fonctionne, c'est-à-dire que tu comprends bien ce qu'ils essayent de te dire. Les rimes, elles sont rigolotes. Il y a vraiment tout un côté, tu sais, où il appuie à fond les tonalités ou les fins de phrases, etc. Enfin, tu vois qu'il exagère à mort, et c'est drôle dans l'instant. C'est-à-dire que ça, comme c'est complètement décalé, ce décalage tout de suite te met dans l'ambiance. Et comme t'es là déjà depuis 3 ou 4 heures avec ce genre de blague, et que ce narrateur surtout, il t'a accompagné depuis le début, et qui se prend toujours au sérieux, il est toujours en train de déprimer parce qu'il a perdu Gigi, et là d'un coup il se lâche complet, il est obligé de chanter et d'être un peu exubérant. C'est drôle en fait, ce contraste entre les deux tonalités du personnage sont très cool.
Puis ce qui est cool, bah, c'est aussi pour revenir peut-être au niveau un peu avant, bah, c'est voilà, le détournement de la grammaire du jeu vidéo. On se posait la question, est-ce que ça pourrait marcher justement ce jeu sur quelqu'un sur une personne qui n'aurait pas forcément l'habitude de jouer, et on se disait que bah, peut-être pas, c'est-à-dire que moi il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est par exemple le fait de prendre l'épée qui est à, tu sais, c'est l'interface, genre la barre de vie a une forme d'épée, ça c'est typique, tu vois, des jeux vidéo de mettre ta barre de vie sur une forme d'épée, et du coup bah c'est là que tu récupères l'épée pour la donner au personnage dans le Zelda-like. Moi ça typiquement c'est vraiment une forme d'humour méta où tu dois dire bon bah ok, c'est une espèce de grammaire à laquelle j'ai l'habitude, et la détourner comme ça c'est rigolo. La barre de vie qui devient trop grande et qui cache le regard du boss, ça aussi j'ai trouvé que c'est des moments moi qui m'ont fait rire. Alors j'étais pas genre là c'est incroyable, mais disons qu'en jouant j'étais tu vois, je percevais cette forme d'humour, et ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai plutôt bien apprécié, mais parce que j'ai tout ce bagage vidéoludique et je peux comprendre tout ce truc. Donc je pense que c'est aussi un jeu qui va fonctionner. Alors je pense que si vous en êtes à écouter Fin du Game, vous êtes totalement dans ce public là vous êtes concerné, mais je sais pas si ça pourrait marcher avec tout le monde. Mais en même temps, bah, c'est le prix à payer je crois pour faire cette forme d'humour.
Ouais, il faut qu'il y ait une espèce de connivence en fait, il faut vraiment qu'on se, tu vois, une espèce de petit pari qui est lancé dès le début du est-ce que vous avez compris ces petits trèfles là, est-ce que ça vous a fait rigoler d'utiliser le point d'exclamation qui est du coup une barre et un point et qui devient du coup un casse-brique, est-ce que ça vous a fait marrer. Si à partir de là t'es déjà perdu, bon bah le reste du jeu tu peux savoir tout de suite que ça va pas, parce que ça c'est vraiment, enfin tu vois, le arcanoïde c'est vraiment le niveau zéro du truc. Et donc le fait qu'il y ait cette petite connivence, j'aime bien parce que ça permet bêtement de dire bah voilà, on assume d'être dans une niche. Si vous avez ces références-là, il y a moyen que vous ayez vous-même en fait pensé à ces blagues-là. C'est vrai que tu t'es dit, enfin, tu vois, moi je me suis revu des fois de me dire ah bah oui, mais là il y a un élément du décor, il cache complètement la vue, le personnage peut pas le voir. Tu vois, je me suis peut-être fait ces blagues à moi-même ado ou il y a quelques années. Et là de te dire là ils le font en mode très premier degré et c'est rigolo et ça marche, c'était cool en fait. Tu vois, il y a ce côté. Et
surtout
ah,
que les puzzles se basent là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à réfléchir avec cette façon de détourner, de te dire bon bah voilà, ce n'est pas une barre de vie, c'est un autre objet, ce n'est pas un inventaire, ce sac c'est pas un inventaire, c'est un sac, ça peut être un sac, ou je sais pas, cette plume elle peut pas servir à faire ça, elle peut chatouiller un squelette, je sais pas quoi. Il y a tout ce truc là, et vraiment bah c'est comme ça que se résolvent les puzzles quoi.
Et t'as l'idée du free to play aussi, tu comprends forcément quand tu joues, et c'est comme on disait là, c'était aussi une idée intéressante, puisqu'il passe du RPG normal au RPG free to play, du coup il enlève voilà des mécaniques pour faire tu vas devoir cliquer sur des pièces pour acheter des choses que t'avais avant. Parce qu'au début il se déplace lentement, il faut que t'achètes, je sais plus, des chaussures.
Il y a la blague tout le temps des espèces de barres de céréales qui doit être le sponsor principal,
Crunchy, intrusif qui apparaît.
Tu utilises la cuillère pour t'en servir pour creuser un truc ou je sais pas quoi.
Et ça, autant bon, tout le monde peut comprendre que voilà, que c'est frustrant, mais là tu connais l'industrie, tu sais qu'effectivement c'est une réalité pour beaucoup de jeux. Là évidemment c'est poussé à l'extrême et dans la parodie, mais du coup c'est plus apprécié. fonctionne. Ouais.
Et c'est rare, en fait, des jeux qui arrivent justement à faire de la parodie avec des codes de jeux vidéo, c'est-à-dire que des jeux plus parodiques, tu vois, on va se rappeler, je sais pas, les Discworld, des jeux un petit peu justement de l'époque LucasArts qui se voulaient être drôles parce qu'il y avait des situations, mais là, le fait de détourner les codes du JV pour se moquer d'eux ou les mettre face à leur propre paradoxe, c'est assez intéressant. C'est vrai que là, c'est vraiment du design par soustraction, c'est-à-dire que avant, il y avait des meubles dans ta maison, il y en a plus, il faut les payer. Tu veux le menu pause, il faut payer. Tu veux de l'aide, il faut payer.
C'est ça le vrai vraiment, Fumito Ueda, c'est ce qu'il voulait dire.
Ouais. Mais non, mais moi j'ai trouvé que c'était quand même vraiment intéressant ce contraste qu'il arrive à créer entre le RPG de base et le free to play, parce que j'ai l'impression qu'il nous permet de rentrer un peu dans la tête de ce game design. Alors lui, il parle un peu qui pervertit le game design traditionnel. Alors je suis plutôt d'accord avec lui, même si je serais pas forcément aussi catégorique, mais c'est vrai que j'aime pas trop les free to play, c'est pas des mécaniques pour lesquelles j'ai une certaine sympathie, on va dire. Et forcément, je trouve que c'est super intéressant cette manière de nous faire passer d'abord par le jeu, bah voilà, vrai, traditionnel, c'est la Super NES. J'aime bien aussi tout l'humour avec le délire, oh, c'est Gaïa qui me parle et tout, tu sais.
Oui, yes, yes, yes.
Oui, c'est Gaïa, oui. Ouais, non, pas besoin des cristaux, on va direct battre le boss et tout. Enfin, ça aussi, c'est très amusant. Mais je trouve qu'il nous permet de rentrer un peu dans la tête du game designer qui va essayer de pervertir parce qu'on s'est rendu compte de tous les éléments qu'il y avait avant. Et là, on se dit, ah bah ça, faut payer. Genre, même le menu pause, il faut pouvoir le payer.
Faut le débloquer,
ouais. Donc, ça, c'est. Je trouve que ça nous permet, même si c'est évidemment une caricature, hein, les free to play sont pas aussi craqués que ça. Mais en caricaturant, ça nous permet de bien comprendre, bah voilà, comment on détourne des concepts. Parce que c'est ça le free to play, hein, c'est de prendre des concepts de game design et de les détourner pour essayer de les orienter vers de la rétention, vers des frustrations à base de temps et de t'engager sur des activités qui sont pas sympas sauf si tu casques. Donc forcément, je trouve que c'est pas mal fait et on sent son désamour pour ce genre-là.
Bon,
là,
et je trouve qu'il s'en cache pas du tout. Hein.
Oui, t'apprends pas forcément toutes les bonnes ou mauvaises pratiques du free-to-play, mais en tout cas, t'as sa vision. En fait, c'est ce qu'il fait. Enfin, c'est ce qui ressort aussi dans le jeu. C'est un jeu qui est vraiment personnel où il a mis beaucoup de lui. Donc il y a ce désamour du free to play, mais après tu vas prendre interview et tout. Il y a aussi cet amour, bah, j'imagine quand même, du point and click. Ouais. Hein, j'imagine que c'est un genre quand même qui l'a pas mal accompagné. Mais aussi, il parlait de Zelda, je crois, tu disais, où il y avait un côté des game design sacré, tu disais.
Ouais, je crois qu'il en parlait un petit peu comme ça dans une interview où il racontait que bah, voilà, le game design des premiers Zelda sur cette espèce d'élégance dans la résolution des puzzles, des choses, voilà, il y a quelque chose de. Bah, c'est magnifique finalement dans ce truc qui se fait toujours aujourd'hui et qui est toujours à la base du jeu vidéo et qui a été un petit peu transformé comme ça, perverti par le free to play. Donc voilà, comme tu dis, on le sent bien dans le jeu.
On apprend aussi qu'il est fan de comédie romantique et qu'en fait c'est pour ça qu'il y a une histoire d'amour entre Gigi et le jeu. Et c'est marrant, tu vois, c'est pas quelque chose que t'entends souvent, quelqu'un qui dit ah oui, moi les comédies romantiques j'adore. C'est vrai que c'est un peu un sous-genre qui est en général pas qui est populaire, mais côté critique, c'est rare que moi je crois que je connais personne qui dit genre
j'aime les comédies romantiques. Ouais, je connais des gens qui aiment les films d'horreur, oui, genre c'est leur cam, tu vois, mais voilà, ouais. les comédies romantiques.
Ou d'adorer des films qui sont des comédies romantiques, mais c'est vrai que là, et c'est marrant de se dire que bah, c'est ça qui fait qu'il y a une histoire d'amour en fait dans le jeu, où tu sens que bah, apparemment quand il réfléchit une histoire, quoi, bah voilà, une histoire d'amour, c'est un vrai bullet point à attendre, quoi.
Bah c'est même plus que ça, parce que du coup, l'histoire d'amour, en fait, c'est vraiment l'histoire. C'est ce que vraiment, au moment où le jeu commence à nous dire que Game, il est à la recherche de Gigi, ça donne en fait tout un cadre à, tu vois, aux enjeux. Pourquoi on l'aide, pourquoi on est là depuis le début, pourquoi il est triste, pourquoi il est déprimé. Et donc, on se rend compte que c'est un jeu qui est beaucoup plus personnel, comme tu l'as dit, que ce qu'on peut imaginer. Et c'est pas si souvent, finalement. Parce qu'on parle souvent de jeux indépendants, tu vois, avec la vision d'auteur, de choses comme ça. Là, on est vraiment sur du perso, du vécu. Il va mentionner vraiment texto la fameuse campagne Kickstarter. Il va dire oui, bah voilà, j'ai dû enlever Gigi parce que bah, ma campagne Kickstarter elle a pas marché, donc je l'ai mise dans un jeu GPS à la con, parce qu'il faut bien remplir son frigo. Il y a des mails dans son téléphone avec Kick Failure, hein, tu vois. Enfin, tu sens en fait que justement c'est des moments de sa vie qui ont été a priori difficiles, qu'on peut comprendre comme étant difficiles, et sur lesquels il va revenir en tant que créateur de jeux vidéo, prendre un peu de recul, un peu de distance avec ça, et peut-être un peu, bah, tu vois. Alors, je vais sortir de la psychologie de comptoir, mais tu vois, il se libère un petit peu de ces trucs-là, quoi, de cette période-là de sa vie, en essayant de les regarder peut-être avec un peu plus d'humour, en se disant, bon, ben voilà, il s'est passé ça. Et ça nous permet, nous, et ça, c'est un truc qui m'avait vraiment touché quand j'ai fait le jeu, d'avoir cette relation entre le créateur ou la créatrice et son jeu et sa création, qui est assez rare, en fait, dans le jeu vidéo. Tu vois, il y a ce rapport d'intimité entre les deux. Il dit, my game, tu vois, mon jeu, oui, créateur, tu vois, enfin, il se parle tous les deux, il se parle à lui-même. Enfin, tu sens qu'il y a un attachement avec ce projet que on sait que ça existe, on sait que c'est leur bébé, les jeux et tout, mais là, bah, c'est personnifié, le jeu, il a une personnalité, et j'ai trouvé ça très touchant, cette relation entre le jeu et le créateur.
Puis c'est cool ce changement de tonalité, c'est-à-dire que nous faire rentrer dans le jeu par l'humour, par des détournements de code et tout, donc on commence à rentrer un peu dans la psychologie de Pascal, pour moi c'est ça, c'est parce que c'est sa créativité qui a parlé, c'est sa façon de détourner les jeux, c'est lui qui nous emmène dans ses puzzles, c'est lui qui nous emmène dans ce free-to-play qu'il aime pas trop, et ensuite on rentre dans sa psychologie, donc on s'attache un petit peu à cette personne derrière le jeu, on ne la devine pas, et ensuite boum, on tombe littéralement sur elle avec des vidéos, donc on voit ce visage et en fait c'est là que les connexions se font, et c'est aussi à ce moment-là où il fait la bascule, où on sent que ça parle de choses un peu plus graves en filigrane, donc voilà le kick failure et tout, et je trouve que voilà, c'est une très bonne façon de nous emmener dans son histoire, de nous prendre par la main au début et de nous faire voilà, je vais te rejoindre, je vais t'emmener via les émotions qui ont été réelles, c'est-à-dire que ce biopic, voilà, cette espèce de grande mise en jeu à travers il n'y a pas de jeu, mais en fait machin, il y en a un jeu, c'est toute une espèce de montage comme ça pour nous démontrer, nous faire vivre des émotions qu'il a traversées, et en fait une fois que, dès que t'as l'interview, dès que tu finis le jeu, tu te dis en fait il n'y a pas de hasard, c'est ce qu'on se disait, on en discutait, on disait c'est obligé que ça soit autobiographique, ça peut pas être, il y a trop de personnalité dans le jeu pour qu'on puisse douter de ça.
Il se filme dans le jeu, enfin tu vois, il se met en scène dans son jeu, il se double lui-même, enfin c'est, tu vois, il y a vraiment une mise en scène de sa propre vie, j'imagine qu'il s'est filmé dans son garage,
enfin limite
bureau,
on se dit voilà, pour moi c'est un youtubeur, tu vois, c'est vraiment son équipement, son bureau, enfin il y a quelque chose effectivement de très intime dans ce moment-là, et voilà, je trouve qu'il arrive à bien nous emmener là-dedans, et une fois que je suis sorti du jeu et que je suis allé lire les interviews, j'ai fait ok, voilà, tout se met en place et on arrive à vraiment comprendre toute l'intention de ce projet, faire vraiment quelque chose de personnel et voilà, nous raconter son histoire. Vraiment j'ai l'impression que c'est un peu un témoignage de voilà ce qu'il a vécu peut-être sur ces 5 dernières années. Et final, il y a une très bonne histoire, mais c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a une bonne histoire parce que l'histoire IRL, c'est-à-dire que le jeu il a eu un succès, donc du coup il y a une happy ending quand
ouais,
même.
Ouais, c'est vrai que
tout.
C'est mignon, quoi, tu vois, il y a ce côté un peu touchant de se dire bon ils ont galéré, mais à la fin voilà, on s'est fait des amis along the way, tu vois, voilà. Et ça y est, c'était ça en fait.
Ah, mais le jeu est sorti et aujourd'hui ça va, tu vois, tu dis qu'aujourd'hui il est plus justement dans son bureau à répondre aux appels, tu sais, qui lui appelle tout le temps genre oh laissez-moi tranquille, tu sais, parce qu'on lui demande des thunes ou je sais plus quoi, et voilà, c'est vrai que c'était assez chouette.
Et du coup, tu as les petits détails aussi qui font que c'est assez abouti, c'est-à-dire qu'au tout départ, tu l'entends parler, tu dis oui, bon, a priori, l'anglais, c'est pas sa langue natale, tu sens dans les intonations et les prononciations que oui, tu dis bon, peut-être que c'est un des mecs ou lui qui fait sa propre voix off, mais en fait, tout ça, c'est expliqué, c'est-à-dire que oui, ils vont avoir la même voix, lui, Monsieur Glitch, le créateur du jeu, mais finalement,
parce que c'est
parce
son
que
jeu.
C'est le jeu et tout est expliqué, du coup, il n'y a même pas besoin de petites justifications où tu dis oui, ok, c'est un jeu indé, donc c'est comme ça, là, oui, c'est un jardin, mais ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de l'expérience.
C'est vrai que c'est pas souvent, on le dit souvent, voilà, c'est les jeux, ça représente la vie des auteurs, ou ils s'expriment à travers ça. Là, c'est littéralement la voix de l'auteur qu'on entend dans le jeu. Donc, le fait qu'ils disent, tu vois, il y a un côté très premier degré du c'est moi qui parle à travers le jeu.
Oui, c'est
genre,
du
on a
méta,
ce lien entre
c'est du méta total.
Nous, joueurs, joueuses, et la personne qui crée le jeu, et on arrive à communiquer à travers ce jeu-là. Et je trouve que ça, c'est cool, ce message-là, parce que c'est un peu ça, le jeu vidéo, c'est ça qui me plaît quand on découvre des jeux qui sont un petit peu plus, personnels, justement. Et là, il est allé vraiment au bout du truc, et c'est pour ça qu'on parlait d'un biopic, vraiment, parce que y a ce côté très autobiographique. Alors évidemment, c'est détourné, c'est vu avec humour, et c'est probablement un petit peu romancé, mais on comprend que c'est quand même basé sur les faits réels de sa vie. Et ça, tu vois, t'as tout de suite une espèce d'empathie pour ce personnage-là, où tu te dis, tain, il en a chié, je vais aller racheter le jeu une deuxième fois, tu vois, pour l'aider un petit coup, quoi.
Non, mais ce qui est cool aussi, puis moi, je dis, il y a un truc que j'entends souvent, c'est que si tu veux faire de la bonne parodie, il faut quand même aimer un peu le truc. Et c'est vrai que quand il fait les point and click, quand il fait le Zelda, tu sens qu'il les aime, ces jeux, tu vois, tu sens qu'il y a un vrai amour pour ça. Autant tu sens pour le free to play qu'il n'y a pas du tout d'amour pour ça, tu le sens bien. Et encore une fois, je trouve que c'est pas seulement un biopic au sens voilà c'est quoi les faits, les histoires de ma vie, c'est aussi un c'est quoi mes goûts, qu'est-ce que j'aime, quel est le game designer que je suis, quelles sont mes influences, et on voit dans ce jeu qu'il y a tout ce mélange là, il nous envoie tout ça dans la tronche, et c'est pour ça que quand tu sors du jeu, t'as l'impression de connaître un peu ce mec là tu vois, voilà, qui a vécu sa vie, c'est quoi ses jeux, c'est quoi ses références, qu'est-ce qu'il aime, il aime les comédies romantiques, c'est dedans, il aime le point and click, on ressent tout ça.
Et ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que moi, j'aime bien. Moi, c'est vraiment typiquement le genre de jeu, vous savez. Moi, j'ai pas aimé l'expérience parce que j'aime pas le point and click. Et voilà, moi, les puzzles, ça me gonfle. J'aime pas du tout ça. Mais par contre, en fait, quand tu réfléchis, quand tu intellectualises le truc et qu'on en parle dans Fatigue, je me dis, bah, en fait, c'est vraiment un jeu qui est très réussi parce que il va vraiment, il fait ce qu'il avait envie de faire et il fait un jeu qui est personnel et qui tient sa personnalité par ses mécaniques de jeu et sa construction.
Et il tombe pas dans un piège dont j'avais peur. C'était typiquement ce que c'est très tôt, c'est le chapitre 2, le point and click Sherlock Holmes qui est en fait voilà point and click méta, mais tu dis bon fondamentalement ça reste un point and click, c'est à dire que sur la forme oui il y a les coulisses, oui on va décrocher un peu les icônes devant, mais ça reste vraiment un point and click classique entre guillemets. Il y a le petit twist, mais ça peut pas tenir sur 5 heures ou plus juste ça, et du coup il va pouvoir varier, il va pouvoir un petit peu changer les décors et tout, mais il arrive à vraiment continuer l'expérience point and click. Et comme on l'avait déjà dit, bah c'est cool aussi de proposer un point and click moderne, en fait, de vraiment parodier tous les codes un petit peu du genre et finalement de pas juste être drôle en détournant les codes ou en ayant des bonnes idées comme la chanson, les crédits ou quoi, mais en plus bah, d'être assez touchant, comme vous le disiez. Donc sinon, c'est une expérience qui est assez complète, qui est assez cool.
Ouais, c'est ça qui est très intéressant à dire, c'est que c'est très complet. Et c'est ça que j'ai trouvé cool, c'est que souvent, il y a des jeux qui vont avoir recours à un ou deux leviers d'humour et ils vont s'y tenir du début jusqu'à la fin, et du coup, au bout d'un moment, ça devient lourd. Là, il y a vraiment, ça part dans toutes les directions, et je suis assez d'accord avec ce que tu disais sur le fait qu'on comprend bien un peu son humour. Tu vois, quand il va, la façon dont il va se filmer, la façon dont il va se mettre en scène, quand tu vois qu'il court façon un petit peu Tex Avery, tu vois, avec son aspirateur qui le poursuit derrière, à un moment il est carrément en train de se faire étrangler par l'aspi. Enfin, moi ça me fait mourir de rire ce genre de truc parce que j'ai grandi avec les Bip Bip et le Coyote et les trucs comme ça, tu vois. Donc c'est mes références à moi en fait. Ouais. Et donc le fait que ça soit comme ça très varié, très large sur l'humour, je trouve que ça permet de prendre un point par lequel on peut rentrer dans son univers. C'est-à-dire que même si on n'a pas les rêves de jeux vidéo, il y a d'autres accès par lesquels on va pouvoir comprendre et du coup rentrer un peu dans sa psyché, quoi.
Et puis même pour revenir un petit peu à ce que disait Max, c'est vrai que même sur le côté vraiment game design, si tu regardes bien, ouais, ils ne se contentent pas de faire justement point and click. Moi aussi, j'avais un peu cette peur là quand je suis allé dans le chapitre voilà Sherlock Holmes. Je me dis ok, donc en fait, parce que tu sais, moi je me suis dit aussi tout de suite, oui, en vrai, c'est un point and click, frérot. Donc c'est méta, c'est bien, mais c'est un vrai point and click. Et en fait, non, après, voilà, Zelda, le personnage il se déplace tout seul, donc on est dans une autre conception du truc. Après, il y a le free to play, après, il y a les crédits. Là aussi, c'est vrai que ce côté. C'est presque un système en fait, dire bah voilà, ce système, je change, c'est presque un donjon de Zelda presque, tu sais, tu vas pouvoir inverser des pièces et hop, ça crée une autre condition, et du coup dans ces conditions tu vas pouvoir résoudre des petites choses. Donc il arrive vraiment à bien se renouveler. Il le disait, comme je disais en intro, il a dû faire presque des jeux différents, et je trouve qu'on a ce ressenti là, et ce qui fait qu'aussi bah, c'est un jeu qui est super bien rythmé. Ça c'est vrai que c'est un point and click narratif, voilà, en 4-5 heures c'est pillé, et bah, il ne s'arrête pas, le jeu il est quand même, il va vraiment tout le temps là.
Très bien rythmé, comme tu le dis, on va vraiment avoir une montée en puissance, parce que d'un coup, quand le jeu en fait twist, il révèle qu'il y a une vraie histoire derrière, et là direct on bascule dans des choses auxquelles on s'attend pas, de la chanson, tu vois, enfin effectivement l'histoire d'amour, la chanson de Gigi, enfin c'est des moments assez forts en fait, où vraiment tu sens que bah voilà, ils ont bien travaillé leur écriture pour que ça soit très bien rythmé, que t'es bah comme dans un film ou dans tu vois n'importe quel récit, que t'es vraiment une espèce de pic d'intensité, et comme ça t'amène tranquillement vers la fin, le happy end, etc. quoi.
Et du coup, on se disait que bah, finalement, c'est un de ces rares jeux qui arrivent... en fait, moi, c'était peut-être la peur qu'on pouvait avoir, c'est que c'est pas juste une parodie, c'est pas juste un jeu satirique qui va juste... Allez, on s'amuse avec les codes du jeu vidéo, mais il dépasse quelque chose, il arrive à tisser une vraie histoire à partir de cette parodie, et ça donne un jeu bah, qui est unique et qui n'est pas que ça, qui n'est pas qu'une blague. Au contraire, c'est quelqu'un qui nous fait des blagues pour nous raconter en fait une histoire qui est un peu plus sombre, entre guillemets, derrière. Et encore une fois, je pense que bah, je me dis, bah, voilà, c'est quelqu'un qui doit avoir de la dérision, qui a pris du recul sur lui-même, sur ce qu'il a fait, et qui se prend pas trop au sérieux, mais qui en même temps va nous dire des choses sérieuses avec ça. Et pour moi, c'est la bonne recette pour nous parler, c'est de ne pas trop se prendre au sérieux et quand même nous donner des vraies choses au fond, qu'il y ait quelque chose à gratter auquel on puisse se raccrocher pour avoir de l'empathie, tout simplement. Et c'est vrai qu'il arrive à atteindre cet objectif là. Et je lisais là le texte qui accompagne bah, leur studio, qui est de dire bah, on veut faire des histoires qui soient personnelles, qui vont laisser des traces chez les joueurs, les joueuses. Et c'est un petit peu ça. Moi je trouve que c'est un jeu, bah, je m'en souviendrai, j'ai pas forcément kiffé y jouer encore une fois, mais bah, je me souviendrai parce qu'il y a toute cette histoire et je comprends comment elle a été construite, comment elle a été mise en jeu, et bah, voilà, ça laisse quelque chose, ça fait un jeu unique, quoi, tout simplement. Par contre, le défi, c'est de savoir bah, qu'est-ce qu'ils vont faire sur la suite, parce que il le disait d'ailleurs dans les interviews, voilà, faire un There is no game 2, Bon, je...
Ça aurait pas trop de sens,
ouais,
en fait.
Ouais, ouais, je pense que ce serait... Déjà, tu vois, l'histoire, elle a été racontée. Donc, tu vas pas nous raconter encore une fois, genre, ah, il a encore fail ou un truc comme ça, ce serait pas vrai.
Bethesda, hein,
ce serait pas vrai, en plus, tu vois, il a une réussite. Alors, bon, est-ce qu'il racontera la réussite dans le truc? Est-ce qu'il va faire comme les rappeurs, tu sais, leur premier album, justement, c'est la rue, c'était dur. Et puis après, ils disaient, ouais, je suis le boss et tout, je sais pas, je m'ennuie.
Cavisotto, PNL, même voilà, combat, voilà, on y est.
Mon enfant, QLF. Il croit que le notaire, c'est son oncle ou un truc comme ça, tellement je suis... Bref. Sauf Sofiane. Mais voilà, je sais pas ce qu'ils vont faire après.
De toute façon, l'approche là de There Is No Game, c'était en mode j'ai des idées, je vais voir ce qui tient, j'y vais idée par idée à partir du moment où t'as ton concept fort. Donc, est-ce qu'il va garder le concept un petit peu où on doit trifouiller des interfaces, être dans un jeu, il y aura des glitches? Peut-être, peut-être qu'il va apporter de nouveaux décors de jeux vidéo, de nouvelles interfaces avec lesquelles on va interagir, parce que ça reste ça le gros concept fort à partir duquel il peut partir. Mais on verra, je pense que même lui, il sait pas forcément dès le début ce qu'il va faire, mais.
Je pense que la marque, c'est plus l'humour peut-être qui va rester, cette espèce de surcouche, cette espèce de dérision. Peut-être la comédie romantique, peut-être qu'il y aura aussi encore ça à cocher.
J'imagine qu'il y aura une histoire d'amour, en tout cas, il a l'air aussi de partir de ça.
Mais ouais, en même temps, je sais pas s'il faudrait qu'ils aillent encore là-dessus, mais c'est vrai que j'aimerais bien les voir sur autre chose, quoi. Se dire, bon, voilà, l'histoire, elle a été racontée, elle a eu besoin d'être racontée comme ça. Je pense que ça ferait peut-être fake, en fait, de se rebaser encore une fois sur le même procédé, quoi.
Moi, ce que j'ai trouvé cool, et je pense que ça peut être une piste, c'est de se dire que, à travers tous ses échecs et sa longue carrière, parce que ça fait quand même plus d'une vingtaine d'années qu'il bosse dans le jeu vidéo, il a acquis toute une expérience, tu vois, un vécu. Et ce vécu-là, en fait, ça peut devenir aujourd'hui la matière qui va pouvoir nous reverser et nous partager des trucs de différentes époques, tu vois. Je sais pas, un jour on pourrait avoir une parodie pour quelqu'un qui bosse, tu vois, sur un AAA ou j'en sais rien. Enfin, avec toutes les histoires qu'on voit popper sur Twitter ou TikTok régulièrement de devs ou d'autrices qui nous racontent des conneries qu'on leur raconte, justement, je me dis, il y a tout un truc à raconter. Est-ce que le fait de continuer de parler un petit peu de sa vie en tant que créateur, ça serait pas intéressant? Je trouverais ça pas mal, parce que finalement, y a peu de jeux qui ont ce côté très personnel comme ça, ou alors c'est des choses plus graves, mais qui sont pas forcément liées à la création du jeu. Le fait qu'il ait comme ça tout ce bagage de jeux vidéo, on sent que c'est quelqu'un qui joue à énormément de trucs, etc. Je me dis, ça peut être quelque chose à travailler, quoi. Donc, faut voir, évidemment, c'est très compliqué de faire une suite. On le sait, t'as eu un succès, c'est bien. La vraie difficulté commence maintenant. Donc, je leur souhaite, évidemment, tout le meilleur. Mais je pense qu'il y a quelque chose à travailler, parce que ce vécu-là, le fait d'avoir eu autant d'années dans l'industrie, doit pouvoir être une source, je pense, d'histoire, d'anecdotes, de trucs sur lesquels on doit pouvoir se raccrocher, nous. Parce que c'est ça qui est cool, c'est de se dire, des fails, enfin, tu vois, des échecs dans notre vie perso ou pro, on en a connu. Et du coup, on peut tout de suite avoir cette empathie pour ce type-là qui est quand même accroché à son projet, tout en sachant que ça n'a pas pu aller au bout, ça n'a pas marché comme il voulait.
Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc, beau jeu, beau candidat pour fin du game. Moi, je l'avais dit pendant la préparation, je trouve qu'il y a une belle histoire. Il y a une belle histoire qui se tisse autour de ce jeu et nous étions contents de vous la raconter, de vous la partager. On se retrouve encore une fois dans 2 semaines. Je vous remercie évidemment, les Patriotes. Merci le sang. Vous êtes le S, comme on dit. On remercie également Third Edition, le bouquin sur The Last of Us 1 et 2 qui va sortir d'ici sous peu, très très rapidement. Voilà, si vous voulez un petit peu plus, si vous n'étiez pas satisfait des épisodes de cette émission, car c'est possible,
on a eu quelques petits retours. On a reçu un abondant courrier de une lettre.
Il y a des personnes qui n'étaient pas tout satisfaits, effectivement, de notre tonalité. Voilà, et bien peut-être que vous trouverez votre bonheur dans ce bouquin. On se retrouve dans 2 semaines. Alors, on va pas parler de The Last of Us, mais un jeu qui pourrait s'en rapprocher, et d'une certaine façon. Ça va parler de découpe. Il faut couper leurs membres.
Il découpe.
Et voilà. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines.
Salut.